à partager la parole ici. C'est vrai que j'ai fait des petites interventions ici pendant les cultes. Mais bon, ce n'était pas prévu comme ça. Mais c'est le Seigneur qui nous donne sa parole. Et je suis très reconnaissant avec le Seigneur, avec l'Église aussi. Et moi, j'aimerais bien commencer par la prière, parce que c'est important. Seigneur, merci, parce que, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui nous a donné ta parole, Seigneur. Et c'est ta parole qui nous encourage, Seigneur. C'est ta parole qui nous conduit, qui nous montre, Seigneur, les chemins. Et je te prie, Seigneur, ce matin, Seigneur, que cette parole, Seigneur, qui va être prêchée, Seigneur, touche, Seigneur, les corps de chacun, Seigneur. Et que cette parole, Seigneur, produit un fruit, Seigneur. Amen. Bon, j'ai réfléchi pas mal de temps pour essayer de trouver quelques paroles partagées ce matin. Alors, je pense que c'est important qu'on partage la parole, de nous placer toujours devant le Seigneur pour dire, Seigneur, c'est quoi la parole qu'il nous fallait pour notre Église dans ces moments-là. Alors, je me rappelle que j'étais le mois de mars en Espagne. J'ai eu l'opportunité de prêcher là-bas. C'était en espagnol, parce que c'est ma langue d'origine. Je suis colombien, et je pense que tout le monde le sait. Alors, pour moi, c'est plus facile. Et prêcher en français, c'est un peu compliqué pour moi, mais je vous demande d'avoir un peu de patience avec moi. Peut-être que je me tromperai, que je vais dire des bêtises, parce que la langue française, c'est un peu compliqué aussi, c'est un peu spécial. Mais c'est pour ça que j'ai pris et que le Seigneur, il fait sa part. Parce que la parole trouve un bon terrain dans notre corps et à ce moment-là, va produire les fruits nécessaires. Amen. Alors, j'aimerais bien commencer pour une petite histoire que j'ai lue, j'ai écoutée un jour. Ce n'est pas une histoire biblique, d'accord ? C'est une fausse histoire. Alors, cette histoire, il parle qu'une fois, il y avait le diable, l'ennemi, qui a dit, bon, il fallait que je prenne la retraite. C'est une histoire, hein ? Ce n'est pas biblique. Alors lui, il a dit, bon, je vais commencer à voyager et j'aimerais bien faire un vide-grenier. Très connu ici en France, non? Moi j'étais en Portugal et en Espagne et on ne fait pas trop ça. Comment ça s'appelle, vide-grenier, non c'est ça? Un vide-grenier. Alors, oui, l'ennemi, il a pris toutes ses affaires, tous les outils qu'il utilisait, voilà, pour faire mal au monde entier. Alors, il a marqué tous les prix. Et alors, il y avait pas mal de choses là-bas. Il y avait la haine, il y avait la jalousie, qui est un instrument très utilisé pour l'ennemi. Alors, les gens qui commençaient à passer, ils se sont dit, bon, ça coûte 100 euros, 200 euros. Mais après, dans un petit coin, caché, il y avait un petit instrument qui était déjà un peu dégradé, usé, très utilisé, sans aucune valeur. Et après, quelqu'un s'est rapproché et a dit, c'est quoi ce petit objet qui coûte trop cher? Après, l'ennemi il a dit, ça, il s'appelle le découragement. Un petit, on va dire, démon ou un petit outil qu'utilise l'ennemi pour travailler dans notre vie. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas sourire et dire qu'il y a des outils que l'ennemi il utilise plus souvent que les autres. Mais moi, quand j'écoutais ce message, toujours l'ennemi, il va essayer de mettre dans notre tête un petit pensée pour nous décourager et pour ne pas réussir à faire la volonté du Seigneur et les choses qu'il nous a donné à faire. Et je pense que ça nous arrive souvent. Je me rappelle, ça fait 5 ans, j'ai pris peut-être la décision plus importante de ma vie et j'ai pris la décision de partir en Portugal pour servir comme pasteur là-bas. Alors j'étais content, j'ai dit, Seigneur, c'est le moment, peut-être je vais accomplir mon rêve. Et 12 ans et demi après, j'ai rentré dans mon pays avec un état de dépression, de tristesse, dans une situation très difficile. Parce que l'ennemi, petit à petit, il va essayer de nous décourager tout le temps. Si tu as envie de faire quelque chose, si tu as envie de commencer pour faire un projet, toujours tu vas trouver, pas seulement des personnes, des situations que l'ennemi, il va essayer de tenter tout le temps pour qu'on arrive à nous décourager. Et c'est comme ça qu'il travaille maintenant. Une fois qu'on a passé tous les moments de COVID, on voit comme les personnes, ils sont découragés. Et c'est ça que je vois autour de moi. Quand je suis dans mon travail, quand je parle avec les jeunes à côté, quand on regarde les infos toujours, on voit que des paroles de découragement. Alors maintenant, on va passer, qu'est-ce qui dit la parole de Dieu? On va voir un cas particulier d'un homme qui avait vécu une histoire merveilleuse parce que le Seigneur il l'a encouragé à faire un travail difficile à faire. Mais une fois qu'il avait fini de faire son travail, il a tombé dans une situation de fragilité, de dépression et de découragement. Maintenant, on va passer à la parole. C'est ça qu'on est venu à prêcher, c'est la parole. Alors, j'aimerais bien qu'on arrive à passer à la Bible et c'est Anne, un roi, chapitre 19, très connu, je pense que tout le monde connaît cette histoire, c'est très connu. Et on va le lire à partir du verset 1. D'accord? C'est l'histoire d'Élie après qu'il avait tué les 450 prophètes de Baal. Tout le monde connaît cette histoire, n'est-ce pas? Oui, un peu. Bon, je vais développer un peu, d'accord? Je sais que presque tout le monde connaît cette histoire. Alors, en Israël, il y avait un roi. Et le roi, c'était Akaf. Et Akaf, il y avait une femme, qui c'était une femme très forte. C'était une femme, on va dire, un peu méchante, parce qu'il a fait que son mari tombait dans les péchés. Alors, dans un moment, Élie, il va faire un holocauste pour les seigneurs. Mais il était devant les prophètes de Baal. C'était Baal. Alors, lui, il tue, il gagne une grande victoire parce qu'il arrive à tuer 450 prophètes de Baal. C'est un peu ça l'histoire. Vous pouvez le lire, ça c'est, il est dans 1 roi, verset 18. Alors, le roi Akaf raconte à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal. Jézabel, c'était la femme d'Akaf, envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes. Si demain, à pareil heure, je n'étais pas traité comme tu as traité ces prophètes, que le Dieu m'inflige la plus terrible des punitions. Et verset 3, Élie prit peur. Alors, on ne peut pas oublier que c'était une victoire qu'avait vécue Élie. Et des fois, il y a la peur qui voudrait s'installer en nous pour qu'on tombe dans le découragement. J'essaie de ressortir des aspects dans cette histoire du roi Akaf et dans cette histoire d'Élie. Alors, la première chose que je voudrais parler ce matin, c'est comme l'ennemi, il va nous décourager par la peur. Des fois, c'est la crainte. Je ne sais pas en français, la crainte et la peur. J'ai demandé ce matin à ma fille, elle m'a dit que peut-être la crainte, c'est un peu plus fort que la peur. Je ne sais pas, je ne connais pas tous les contextes ici en français. C'est un peu pareil, on parle de la crainte de Dieu, d'accord? Que je parlerai de ça. Mais dans ce cas-là, c'était vraiment la peur qui s'installait dans le corps d'Élie. Alors, qu'est-ce que c'est la peur? La peur, c'est un élément qui va nous déstabiliser, qui va à nous bloquer pour éviter qu'on va avancer, qu'on va prendre des décisions. La peur, elle va essayer toujours de nous laisser statiques, de ne pas bouger, de ne pas prendre des décisions. Alors j'aimerais bien qu'on réfléchisse ce matin. Quelle situation dans ta vie te donne la peur? Tu vis une vie de peur maintenant. La peur parce que peut-être on va perdre notre travail. La peur parce qu'on dit, bon, j'ai la peur que peut-être ma famille ne va pas bien. La peur pour nos enfants. Seigneur, qu'est-ce qui va faire de la vie d'Isabella et Daniela? Seigneur, elles vont réussir dans la vie. La peur parce que je n'ai pas de l'argent pour les mois prochains. Alors, dans quelle situation? Moi, j'aime bien quand la parole, il vient, il touche notre corps. Dans quel moment de ta vie tu as eu la peur? Ou est-ce que tu as la peur dans ce moment de ta vie? Alors, je vais te dire une chose. La parole, il parle de la crainte. Et c'est la bonne crainte. Parce qu'il y a, je pense qu'il y a, en espagnol, on dit qu'il y a la bonne peur et la mauvaise peur. Ah, merci. Ah, merci. Que le Seigneur te bénisse. Alors, il y a la crainte du Seigneur. Proverbe, regardez, Proverbe 1, verset 7, il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Laisse insensé, mépris la sagesse et la instruction. Alors, on ne peut pas avoir la peur. Mais bien sûr, on n'aura pas la peur si on a la crainte de Dieu. Et c'est comme ça qu'il marche. Si j'ai la crainte de Dieu, je sais que le Seigneur, il est tout puissant. Si je me place devant la crainte de Dieu, je vais reconnaître que le Seigneur est mon berger, qu'il va prendre soin de moi et de ma famille. Je vais à reconnaître que c'est lui qui a le contrôle de ma vie. Alors ça marque la différence. Quand je suis dans une situation de peur, c'est parce qu'il y a le manque de la foi dans quelque situation de ma vie. Parce que la foi, c'est le contraire. C'est l'opposé directement à la peur. Alors dans ce cas-là, il y avait un moment spécial de victoire qui avait vécu Élie. Et après, les jours, le lendemain, il a tombé dans la peur. Combien de fois ça nous est arrivé? Moi, je pense beaucoup pour les personnes qui vont passer. J'ai pris beaucoup pour Maureen et pour Andy, qu'ils sont revenus, qu'ils sont rentrés de la sud de la France. Des fois, on est dans une ambiance spirituelle, jour à jour, à chanter, à louer, à étudier la parole de Dieu. Et des fois, quand on arrive dans la maison, par exemple, ça c'est la maison, Andy, c'est le cas de Maureen qui sont rentrés, et maintenant, on dit, Seigneur, J'ai gagné des victoires, j'ai passé des situations difficiles, mais j'ai réussi. Mais des fois, quand on arrive dans un moment, on dit, bon Seigneur, je suis là, j'ai gagné une grande victoire, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est dans ce moment-là que peut-être il y a l'ennemi qui va utiliser la peur pour s'installer, pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Alors peut-être, et j'espère que ce n'est pas le cas de Maureen et d'Andy, mais j'ai pensé hier, quand j'ai commencé à préparer ce message, j'ai dit, Seigneur, c'est important de savoir qu'il faut marcher toujours avec le Seigneur. Parce que même si on traverse un moment de victoire ou d'échec, je parlerai après, ça peut nous arriver que l'ennemi, il pourra essayer de nous décourager. D'accord? Première chose, alors, c'est la peur. Et le verset 3, il dit, « Élie prit peur. » Douzième point qui peut nous décourager. C'est normal, ça c'est la fatigue. On peut être découragé quand on est fatigué. Hein. On est fragile, on est humain, on a un corps qu'il fallait dormir, se reposer. Mais des fois, quand on est dans une situation qu'on travaille beaucoup, qu'on fait pas mal de choses, on peut tomber un peu sur la fatigue. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on est fragile et que l'ennemi, il peut travailler. On va les lire, on va continuer. On est toujours sur 1 Roi, verset 19. Mais je vais continuer à lire à partir du verset 3. Alors, Élie prit peur. Il s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendait à Beersheba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur et puis il marcha pendant une journée dans le désert. Il alla s'asseoir sous un arbuste, un gêné. Je ne connais pas un gêné, je ne sais pas, un arbuste. Peut-être que c'est un arbre très grand. mais ça ne me dit rien en français. Alors, il souhaitait mourir. C'est fort, hein? Il a souhaité mourir. C'était le cas. Alors, je m'ai perdu, simple, s'endormi. Alors, arbuste, il souhaitait mourir. Il dit, « Mon nom, Seigneur, je ne sais. Reprends ma vie, car je ne vous pas mieux que mes ancêtres. » Puis, il se coucha, il s'endormit sur les genoux. C'était le cas de lui, qu'il était en tristesse, en découragement et en dépression, que lui, il voulait mourir. Et qu'est-ce qu'il fait les gens quand ils voudraient mourir? Ils commencent à abandonner les choses, à dormir, parce que beaucoup tombent à dormir. Alors, je me rappelle, c'était la fin de l'année 2008. Alors, avec ma famille, on a quitté Portugal. J'ai fini mon travail comme pasteur là-bas. Et je pense que les 12 et demi premières années, c'était très bien passé là-bas. Mais à la finale, il y avait l'ennemi qui a commencé à travailler pour nous décourager, pour faire son travail de détruire, comme j'ai dit. Et alors, dans ce moment-là, on était obligé de quitter le pays. On est parti, on a quitté Portugal. Et personnellement, j'ai commencé à tomber sur une situation de dépression. Mon rêve, toute ma vie, c'était servir le Seigneur, partager la parole, parce que moi, j'aime bien partager la parole. Alors, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire après avec ma vie? Bien sûr, il y a ma femme, mais on traversait une situation très difficile à niveau de couple aussi. Et je pense que c'était une crise très, très difficile qu'on a traversée. Et tous ensemble comme famille, avec l'aide, bien sûr, de la part du Seigneur, mais de notre fille aussi, qu'ils ont beaucoup appris, et même qu'ils ne savaient pas même l'âge pour gérer des situations comme ça. Mais on était obligé de sortir de Portugal, on a enlevé les filles du collège. Et moi, je me retrouvais dans les points de partie, parce que moi, j'avais quitté la Colombie, ça fait 20 ans. Et ça fait 3 ans, j'ai retourné en Colombie. Et quand je rentrais en Colombie, j'ai vu un peu la vie, toutes les choses, les tombes qui avaient passé. Mais après, j'étais dans un état comme ça. Seigneur, ça fait 17 ans que j'ai quitté la Colombie. J'ai pensé, Seigneur, merci, j'ai accompli mon rêve. Mais après, l'ennemi, avec la peur, avec le découragement et avec son travail, il nous avait cassé. Vraiment, c'était la grâce du Seigneur qui nous a relevés. C'était ma femme à l'époque qui a été un peu plus fort que moi parce que moi, j'ai tombé et j'ai resté pendant un an dans les trous. Et c'est grâce à Dieu. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissant avec le Seigneur que ce matin, j'ai pu partager la parole avec vous. Parce que des fois, on va traverser des situations difficiles. La vie n'est pas parfaite. On vit pas dans une vie qui est rose toujours. On traverse des difficultés. Et c'est Edouard qui l'a partagé la semaine dernière, et ça fait 2 semaines avant. Il y a des circonstances que le Seigneur, des fois, il permet pour qu'on puisse grandir dans notre vie, qu'on puisse monter les niveaux avec le Seigneur. Bien sûr, spirituel, en service avec le Seigneur. Et c'est pour ça que c'est seulement par la grâce du Seigneur qu'on peut nous rétablir et être là ce matin. Alors, quand la fatigue arrive, on n'arrive pas à avoir les pensées claires pour prendre des décisions. Quand on est fatigué, quand on a la peur, quand on est en dépression, je pense que c'est Hélène qui nous l'a dit la dernière fois, quand on est dans une étape de dépression, on n'arrive pas à prendre des bonnes décisions. Parce que l'ennemi, il essaie de mettre une espèce de voile autour de nous, il nous empêche de voir la réalité, de voir la vérité et surtout d'écouter et de mettre en œuvre la parole du Seigneur. Et ça m'arrivait. Moi je me rappelle, j'étais en Colombie et j'étais chez mes parents parce que Paula et moi, on est de la même ville. Alors, on est voisins. On habite pas loin. Alors, j'ai rentré, je me retrouvais chez mes parents avec ma femme, avec 2 filles, dans une situation très difficile à tous les niveaux. Au niveau économique, bien sûr, parce qu'on était à ça de nous divorcer aussi. On était dans une situation très, très, très difficile. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur, pour sa grâce, il nous a ramenés ici à la France. Et il nous a restaurés et on continue à marcher et à servir le Seigneur. Et c'est là que j'aimerais bien faire, parce que c'est grâce à lui qu'on peut nous relever. Ce n'est pas parce qu'on est fort en nous. Ce n'est pas parce qu'on dit, bon, j'ai de l'argent, j'ai quelques argent dans la banque. On vit des temps très difficiles que même on ne sait pas si demain ou après-demain, notre sécurité, ça sera l'argent qu'on a gardé dans la banque au-dessus du matelas. Parce qu'on ne sait jamais. On sait jamais. Mais on ne peut pas avoir la peur. Parce que notre sécurité se trouve dans le Seigneur. Amen. Bon. On continue. Deuxième, c'est la fatigue. Alors la fatigue, ça peut être la fatigue physique. Et traiter la fatigue physique, c'est se reposer, prendre les vacances. Ouais, j'ai posé la question, ça fait longtemps, pourquoi on prend les vacances? Parce qu'il faut se reposer. Mais on ne peut pas nous reposer de chercher le Seigneur. On ne peut pas nous reposer de lire la parole, de prier le Seigneur. Parce que personnellement, les jours que je me repose, c'est le dimanche que je suis ici à l'église. Parce que moi, je cherche le Seigneur, je change le Seigneur, j'écoute la parole, je me nourris pour la parole et je partage avec vous. Même qu'une fois qu'on finit le culte, on part rapidement. Mais pour moi, c'est très essentiel être dans l'église. Parce que ça nous permet de nous reposer aussi entre nous. Bien sûr qu'il y a des difficultés, bien sûr qu'il y a des moments que le relationnel, c'est compliqué dans l'Église. Mais c'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit qui va nous aider à gérer et à travailler les parties relationnelles, à nous aimer, à nous pardonner. Mais le repos que le Seigneur il voudrait nous donner, ce n'est pas seulement de passer 15 jours, 20 jours à la plage. Moi, j'ai pris une semaine de vacances. Et moi, je me reposais bien. Et après, j'ai rigolé avec René, parce que je lui ai dit, ça va, c'était bien les vacances. Il m'a dit, oui, j'ai pris 15 jours et tout ça. Et après, je lui ai dit, maintenant, il faut une semaine pour se reposer de les vacances que tu as passées. C'est ça. Quand on part en vacances, des fois, on vient plus fatigué qu'avant. Non? Oh, ça m'arrive qu'à moi, je pense. D'accord. Bon, il y a la fatigue physique. Il y a la fatigue émotionnelle. C'est un peu plus difficile. Et après, il y a la fatigue spirituelle. Je me rappelle à ce moment que j'étais là-bas chez moi, j'arrivais pas du tout à lire la parole. Il y avait quelque chose d'effort en moi que j'ai dit, Seigneur, peut-être que j'arriverai pas à me remettre. Mais c'était à travers la parole, à travers la prière, que le Seigneur il a commencé à rétablir. Troisième situation que l'ennemi voudrait faire pour nous décourager. Versets 9 et 10. On est toujours sur le même chapitre. D'accord? Verset 9. Alors, arrivé à l'Horeb, Élie entre dans une caverne. Oui, il passa la nuit. Alors le Seigneur lui adressa la parole. Pourquoi es-tu ici, Élie? Il répondit, Seigneur Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter les façons d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Dans notre vie chrétienne, il y aura des moments qu'on va nous retrouver en face de la persécution, qu'on va nous retrouver en face de l'opposition, parce qu'on est chrétien. Et quand on est chrétien, on est la cible numéro un de l'ennemi. Et ça, il faut le savoir. Moi, j'aime bien prêcher la parole, mais moi, j'aime bien montrer aussi qu'il y a toujours un ennemi derrière qui voudrait voilà, faire les jeux pour qu'on arrive à tomber. Et comme ce n'était pas moi, c'était pas mon cas, moi j'aime bien montrer les façons comme l'ennemi il peut agir dans notre vie. Alors, ça, il travaille beaucoup. Élie, il a dit, Seigneur, je suis tout seul. Tu m'as abandonné. Il n'a pas dit, mais il s'est senti abandonné. Il a dit, Seigneur, maintenant, tous les gens Et tous les prophètes qui sont en Israël, ils sont avec Akav. C'est moi seul qui reste. Alors ça, c'est une manière que l'ennemi il va travailler avec la jeunesse, avec notre gens. Quand tu vas arriver dans les lycées, dans l'université, après il y aura toujours l'ennemi à dire tu es seul parce que tu es chrétien. Et après les jeunes ils vont commencer à dire non, mais j'aimerais bien faire une fête ce soir, on va nous amuser, on va faire ça à droite, à gauche. C'est vrai qu'on est dans un monde qui est être chrétien et être différent, c'est de plus en plus compliqué. Et surtout pour nos enfants. Je pense à nos enfants. Je pense à les jeunes de l'église. Je pense à les petits. Parce qu'ils sont dans une exposition des mauvaises choses très, très graves dans ces moments-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails et parler de cette situation. Peut-être un jour, je prêcherai pour aider un peu les parents, comme on peut faire pour garder nos enfants devant le Seigneur. Parce que c'est très important. C'est une étape critique. On a prié pour les couples. Et la première chose que l'ennemi il voudrait faire, c'est casser la couple pour casser les enfants. Alors, on va être toujours, comme chrétien, exposé devant, en face de l'opposition, en face de la persécution. Et ça va être de plus en plus. Je partage ça, pas pour vous décourager, qu'on prend force, qu'on prend la vie, et c'est ça que je vais proclamer ce matin. La vie dans cette église, comme l'avait fait notre apôtre Jean-Marc Potenti quand il est venu. Et c'est ça que dans un moment que j'étais dans les trous, dans la détresse, dans une situation difficile, et j'ai commencé à proclamer la vie et la parole du Seigneur. Amen. C'est où que tu trouves l'opposition? C'est une question. C'est où que tu trouves les attaques de l'ennemi à travers de l'opposition et de la persécution? Moi, personnellement, je l'ai su toute ma vie. Parce que moi, j'ai mes parents qui sont en Colombie. Moi, j'ai un frère qui habite ici dans ce quartier-là, même pas à 3 minutes d'ici. Et c'est pour ça qu'on est venu ici dans l'église. C'est grâce à Dieu, mais c'est parce que mon frère, il habite ici à côté. Il a acheté une maison, ça fait 4 ans. Alors, dans mon cas particulier, moi, j'ai connu le Seigneur, ça fait 20 ans quand j'ai quitté la Colombie. Et quand j'arrivais en Espagne, après j'ai passé 1 an et demi ici en France, et c'est à ce moment-là que j'ai connu une église chrétienne et que je me suis converti. Alors, dans toute ma vie, dans les 20 ans que j'ai, toujours, j'ai eu la même persécution de la part de ma famille, parce que mes parents, ils ne sont pas chrétiens évangéliques en Colombie. Mes parents, ils sont catholiques, mais c'est un peu, pour dire, c'est un peu cliché, un peu la tradition, non, c'est ça. Mais ils ne sont pas des chrétiens évangéliques. Et mon frère aussi, et toute ma famille. Alors pour moi, quand j'ai pris la décision de marcher avec le Seigneur, de servir le Seigneur, c'était toujours un moment très difficile pour moi parce que j'ai vu toujours la persécution et l'opposition de ma famille pour dire qu'est-ce que tu vas faire. Et cette situation, c'était aussi compliqué, surtout et plutôt le moment que j'ai rentré en Colombie. Parce que quand j'étais chez mes parents, je n'avais pas de l'argent. Et après mes parents, et mon fils, qu'est-ce que tu as fait avec ta vie? À moi, j'ai parti pour servir le Seigneur. Et comme tu es maintenant, alors ça te rentre toujours plus dans les trous. Mais je sais le Seigneur qu'on va servir. Parce que c'est lui qui m'a rétabli. C'est lui qui m'a fait grâce. C'est lui qui peut nous restaurer. Et qui a toute l'autorité. Même si on est dans le fond, si on est en détresse, c'est lui qui va nous relever. Et c'est ça que j'aimerais que tu réfléchisses ce matin. Que cette parole il peut rentrer dans ton cœur et que tu peux marcher avec la foi. On va recevoir la persécution. Et ça, même Jésus, il nous l'avait dit déjà. N'est-ce pas? Bon, et quatrième, pour finir cette partie-là, c'est les victoires et les échecs. Et moi, je le dis quand j'ai commencé, l'histoire d'Élie, c'était une histoire qu'il avait vécue, d'une victoire. Mais ça peut être aussi un échec qui peut nous décourager et nous remettre dans la dépression comme c'était mon cas. D'accord ? On a vu déjà la première partie de ce verset. Et je suis en train de lire la version Bible français courant. J'aime bien cette version parce qu'il est plus clair pour moi. Alors, la première partie, c'est Élie est découragé. Mais on va commencer à lire les bonnes choses, on va partager les bonnes choses. Et c'est la deuxième partie, Dieu redonne du courage à Élie. Amen. On est découragé, mais on a le Seigneur qui va nous encourager pour accomplir sa parole. Alors, c'est ça la question. Comment vaincre les découragements? Qu'est-ce que je vais faire dans cette situation de découragement? Première chose, verset 8, il dit, Élie s'éleva donc pour manger et boire, puis avec les forces trouvées dans ses repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Ah, j'aime bien ce verset, parce qu'il y a quelque chose de particulier que le Seigneur il nous montre. Il dit que Élie, il a monté, il a arrivé à la montagne. Et vous savez, la montagne, c'est un symbole de la prière. Il n'y a pas seulement que Élie qui a monté, qui a arrivé jusqu'à la montagne. Il y a Jésus-Christ qui l'a monté dans les monts des Olives pour prier dans un moment de détresse. Il y avait aussi Moïse, à ce moment-là, que le Seigneur il a dit, viens avec moi, on va nous retrouver là-bas. La montagne, c'est le symbole de la prière. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas lâcher la prière. Église, on ne peut pas laisser la prière à côté. Je peux prendre des repos, je peux prendre des vacances, mais il faut prier, il faut garder ma union avec le Seigneur. Et moi, quand j'ai parti une semaine de vacances avec la famille, c'est vrai que je n'ai pas fait comme d'habitude pour lire beaucoup la ville, pour faire ça. Mais après qu'il passe 3 jours ou 4 jours, je ne sais pas, moi, je commence à dire, ah, il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que j'ai commencé. Et je pense que ma famille le sait parce qu'il dit, ah, papa, il est un peu... Papa, il commence à dire des choses pas bien. Papa, il est un peu pas amusant. Voilà, mais on commence à avoir un peu l'amertume, la tristesse, la... Je ne sais pas, mais ça m'arrive à moi. Quand j'ai commencé à me déconnecter du Seigneur, ça c'est facile, ça peut prendre du temps, peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais après, on peut être de l'autre côté. On ne va pas perdre la salvation, bien sûr, mais on sait, et j'aimerais bien que chacun de vous arrive devant le Seigneur à dire, Seigneur, est-ce que je suis à tes côtés ou je m'éloigne de toi? C'est une question. J'ai fait ce matin. Je suis à tes côtés. Je marche avec toi, Seigneur. Je suis à la montagne avec toi. Le Seigneur, il a dit à Élie, Élie, viens avec moi. On va aller à la montagne. Moi, je vais t'aider. Il avait dormi. Il avait mangé. Hein? Il faut aller le repos physique. Il fallait, bien sûr, nous reposer. Mais après, il a dit, viens avec moi. Parce que je vais te donner quelque chose de très intéressant. Et à la fin, je vais te dire qu'est-ce que le Seigneur il a donné à Élie. Parce qu'il l'a rétabli. C'est la prière, aller à la montagne, passer des temps avec le Seigneur. C'est à travers de la prière que le Seigneur il va écouter notre corps. Et on va lui dire, Seigneur, je suis malheureux, je suis triste, je suis dans une situation difficile. Et c'est seulement à travers de la prière que le Seigneur il va connaître vraiment ce qu'il y a dans notre corps. Bien sûr que le Seigneur il nous connaît déjà, mais il faut établir une communication avec lui. Ça fait 2 mois ou 3 mois qu'on essaye de travailler la bonne communication. C'est très important la bonne communication dans les entreprises, dans les couples. C'est très important de communiquer bien. Mais pour communiquer bien, il faut un message qui va, il faut un message qui retourne. Il faut prier le Seigneur, il faut l'écouter à travers la parole. Il faut aller et retourner pour avoir une bonne communion. Je parle de quelque chose de pratique, hein. Ce n'est pas trop compliqué. Mais c'est plus difficile le mettre en œuvre et marcher chaque jour avec le Seigneur. Comme banque, le découragement. Première, la prière. Deuxième, ah ça j'adore, la présence du Saint-Esprit. On va lire les versets 11, 12 et 13 du même chapitre. Sors, le dit le Seigneur, lui dit le Seigneur, tu te tiendras sur la montagne devant moi. Je vais passer. Aussitôt, un grand vent souffla avec une violence telle qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y a eu le bruit d'un léger souffle. C'est ça le Saint-Esprit. L'a soufflé. En douceur. En paix. Et c'est comme ça qu'il agit. Verset 13. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit de la caverne. Il s'éteint devant l'entrée. Il entendit de nouveau une voix qui disait « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» C'est le Seigneur qui aimerait rentrer en communion avec nous. La parole dit que la sagesse, on la lit, c'est la crainte au Seigneur, c'est le commencement de la sagesse et d'avoir une relation avec le Seigneur. Et quand on lit les proverbes, la parole dit qu'il y a la sagesse dans la rue qui cherche des personnes pour partager, pour être avec nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous cherche, qui aimerait passer des temps avec nous et qu'on arrive à les connaître. Je ne vais pas prêcher du Saint-Esprit ce matin, comment il agit, qu'est-ce qu'il fait, mais c'est important d'avoir la communion du Saint-Esprit. Les pères, quand on les voit dans la parole, on a vu qu'il a déjà fait son boulot. Il a rétabli le monde entier, il a fait son travail, il a été avec les prophètes dans l'Ancien Testament. Après, c'était le moment de Jésus, qui c'est même Dieu. Et Jésus, il est venu à la terre, il a pris, il a servi, il a fait son travail. Après, il est parti. Mais après, Jésus, il a dit, n'aie pas peur, on ne restera pas seul. S'il y a des soucis, s'il y a des problèmes, s'il y a de manque de sagesse, de connaissances, moi, je vais laisser les consolateurs. Et c'est ça qu'il appelle le consolateur. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut nous consoler et qui peut nous encourager. Mais on ne peut pas lâcher le Seigneur. Il faut qu'on essaye d'aller à la montagne, bien sûr, à travers les prières. Mais quand tu seras à la montagne, tu vas trouver la présence du Seigneur. C'est le Seigneur qui va venir et qui va se poser devant toi. Il va te dire, qu'est-ce que tu fais là, comme il a dit à Élie. Et moi, j'aime bien. Quand je passe des temps avec le Seigneur et je suis là, et le Seigneur il me regarde, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Tu es mon enfant, je t'aime, j'aimerais bien passer des temps avec toi. J'ai vu qu'on travaille ensemble. C'est ça qui fait le Saint-Esprit. Amen. Comme convaincre le découragement. Troisième. Ah, ça c'est compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué parce que ça parle de la obéissance. Et ça, des fois on aime bien, des fois on n'aime pas. Ça dépend de la situation, non? Alors, la troisième, c'est la obéissance. Verset 15, on continue toujours dans la même histoire. Mais le Seigneur lui dit, après qu'il était avec lui, qu'il a venu sa présence, il lui dit, va, retourne par le même chemin à travers les déserts. Et rends-toi à Damas, tu iras y consacrer de ma part à Saël comme roi de Syrie. Il a été à la montagne, d'accord? Il a trouvé le Seigneur. Mais après le Seigneur, il a parlé aussi. Je dis qu'il y a un message qui va, il y a un message qui retourne. Alors le message de retour pour lui, c'est que le Seigneur, il a dit, il faut que tu fasses une action. il faut que tu passes à voir un roi, parce que c'est toi qui vas le consacrer. Alors, toujours, quand on est dans la présence du Seigneur, le Seigneur, il nous va donner des directrices, des situations à faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec la parole qu'il va nous dire? Écouter la voix du Seigneur, c'est trop difficile. Moi, je me rappelle un jour que j'étais en train de parler avec Olivier. Et après, Olivier, il m'a dit, Oscar, comment on peut savoir vraiment quand le Seigneur, il nous parle? C'est une question un peu piège, un peu difficile pour nous. Moi, par exemple, personnellement, moi, j'aime bien la parole. Moi, je suis attaché à la parole. Et moi, quand le Seigneur me parle, il me parle à travers la parole. Parce que lui, il me connaît. Il sait déjà que c'est à travers de la parole que je vais écouter. C'est vrai que ce n'est pas évident. Parce que des fois, on peut, tergiverser, c'est dit en français, non? C'est une expression? Ah bon, c'est pareil qu'en espagnol. Ah, merci, Seigneur. Alors on peut tergiverser un peu la parole de Dieu pour dire, ah, pff, je vais l'organiser pour que voilà, ça arrive dans mon terrain. Mais tu sais déjà comme le Seigneur, il t'a parlé plusieurs fois. Et je pense que tu le sais, parce que tu as vu le Seigneur agir dans ta vie. Je ne sais pas comment. Il y a des personnes, par exemple ma femme, des fois, il rêve, ma femme, elle rêve. Mais elle rêve des fois, et des fois ça arrive que c'est un rêve, que c'est un prophétique. J'ai dit, bon, le Seigneur est là. C'est vrai que c'est pas évident. Il faut être dans l'esprit pour juger les situations et pour juger les choses. Je ne vais pas dire que le Seigneur il va nous parler d'une manière ou d'une autre manière. Mais le Saint-Esprit, il agit comme il veut. Des fois, même on est dans l'église, on n'arrive pas à écouter ce que le Seigneur il voudrait de nous. Mais des fois, on est dans le travail, on est avec un collègue qui même, il n'est pas chrétien, et après, il nous dit quelque chose, parce que la parole dit que même si on ne parle pas, il y aura les pierres qui vont parler. C'est ça? Alors, le Seigneur, il parle comme il veut, mais il faut une condition. Un cœur humble, humilié devant le Seigneur. Un cœur qui voudrait écouter le Seigneur, mais surtout qui voudrait obéir. N'est-ce pas? C'est ça. Et c'est ça la vie chrétienne. Des fois, oh, c'est trop compliqué, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que des fois on traverse des situations. Mais si on arrive à écouter la voix du Seigneur et surtout à obéir, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole, alors ça fera de nous chaque jour mieux. J'aimerais bien partager, si quelqu'un peut m'aider à lire, et Josué 1, verset 6 jusqu'à le verset 9. Et ça, c'est une autre histoire que je ne vais pas rentrer trop ce matin, mais c'est un appel que le Seigneur il avait fait à Josué après que Moïse il avait quitté déjà. Et le Seigneur, il va lui parler à Josué, il va lui dire, regarde ici le clé, comme tu vas réussir à accomplir le ministère que je vais te donner. Alors, tu pourrais... Six jusqu'à neuf.
Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
Il faut garder la loi, garder la parole. Nous, maintenir fidèle à la parole et l'obéir. Et après, j'aime bien la promesse qu'il dit à la fin. C'est comme ça que tu vas faire ton entreprise, que tu vas démarrer quelques projets et ça va réussir. Amen. Obéissons à la parole du Seigneur. Et pour finir, j'ai un quatrième point, comme vaincre les découragements. Et on va le voir dans les versets 16 et 17, il dit la parole. Puis tu iras consacrer Jéhu, fils de Nimshi, c'est le Seigneur qui parle, comme roi d'Israël, et Élisée, fils de Caphat, d'Abel-Méola, pour te succéder comme prophète. Alors, le Seigneur, il a rétabli le ministère d'Élie pour qu'il arrive à laisser une nouvelle génération. Ça veut dire, lui, le Seigneur, il a permis de laisser, de donner en transmission. Et je pense que ça, c'est par la grâce du Seigneur. Et quand on est découragé, on ne peut pas oublier qu'on a une génération, comme j'ai dit, qui vient derrière nous. Et c'est ça que le Seigneur il a rappelé et a rétabli le découragement d'Élie. Il a dit, tu vas m'obéir, mais après, tu continueras à me servir. Et moi, je suis là devant vous, comme j'ai dit, pour la grâce du Seigneur. Parce que quand j'arrive ici en France, je dis, Seigneur, peut-être que je vais me rapprocher d'une église, je vais essayer de te servir, d'encourager un pasteur, d'aider les gens. Et c'est seulement parce que le Seigneur a voulu que je sois là et que de plus en plus, je vais un peu mieux, avec la crainte du Seigneur, bien sûr, je vais essayer de servir dans cette église. Avec l'aide de tout le monde, bien sûr. On n'est pas seulement les personnes qui sont ici devant nous dans la tête. Il faut que chacun de nous arrive à se présenter devant le Seigneur pour dire, Seigneur, c'est quoi mon don, c'est quoi le talent que tu m'as donné pour servir à l'église. Et pour moi, voir la louange se rétablir, c'est un miracle. De voir comment on a été, ça fait 9 mois, dans une situation un peu difficile, un peu compliquée. Mais par la grâce du Seigneur, c'était Florence qui a pris un peu les relèves et on est très reconnaissant avec le Seigneur et avec elle pour toutes les choses qu'elle avait fait, avec le groupe des jeunes aussi. Mais on voit comme le Seigneur, il commence à envoyer des renforts pour qu'on puisse accomplir la volonté de lui dans cette église. Alors, on ne va pas rester dans l'état qu'on a été. Le Seigneur, il va agir, il va faire. Comme ça, on va y arriver à les servir. Parce que c'est ça, le dernier mot que je voudrais partager avec vous. On est encouragé quand on commence à servir les autres. Et quand j'arrivais ici en France, je me rappelle, on est venu ici à l'église. C'est Paula qui a trouvé l'église ici, qui a marché ici par les quartiers. Et après, j'ai vu l'amour, la grâce du Seigneur ici dans l'église. Mais petit à petit, je dis, Seigneur, dès que je vais aller mieux, je vais commencer à te servir. Même si ça sera derrière, dans les derniers postes, derrière la table, dans l'endroit que Claudie m'a nommé, et même si je ne sais pas rien faire ici dans l'église, même s'il faut déplacer les chaises ou faire quel que soit, mais moi, je vais servir le Seigneur. Et quand on sert le Seigneur, c'est à lui qu'on le sert. Même que des fois, on voit les gens qui critiquent et qui disent « Ah, ça, c'est pas bien. Ah, pourquoi tu as fait ça ?» C'est pas grave. Fais-le pour le Seigneur. On est là pour le Seigneur. Moi, je suis là pour le Seigneur. Pas pour les personnes ou pour les gens, parce qu'on va voir des choses difficiles à côté. Et on va se désencourager quand on commence à regarder « Ah, oh, personne qui bouge une chaise dans l'église. Ah, personne qui fait ça. Ah, la louange, c'est compliqué. » Alors, parler, c'est facile. Mais faire, c'est plus difficile. Signaler les défauts. Ah oui, c'est facile. Moi, je sais le faire. Mais faire, c'est compliqué. Et pas seulement faire, être avant de faire. Disciple du Seigneur, serviteur du Seigneur. Avoir l'envie de dire, Seigneur, même si c'est un petit truc que je vais faire dans l'église, mais Seigneur, j'aimerais bien le faire pour toi. Il dit, tout le monde a une place ici dans l'église. Le corps, il est grand. Il y a plein de choses dans le corps humain. Et le Seigneur, il nous montre quand on lit la Bible. Et chacun a sa petite, son petit travail. Même qu'il y a des travaux ou des tâches qu'on voit. Et qu'ils sont des responsabilités. Mais tu sais, les postes de plus responsabilité, des fois c'est les plus difficiles, parce que c'est là-haut où l'ennemi il va attaquer pour diviser, pour casser et pour faire de l'église disparaître. Et c'est ça que c'est compliqué. Alors, il faut prier tous, il faut rester ensemble, il faut prier pour une équipe qui se relève ici dans l'église. Je ne veux pas travailler tout seul ici dans l'église. Moi, je suis très content avec Charles qui a été cette matin avec moi. Et moi, peut-être dans le début, c'était non, Oscar, il restera tout seul, mais toujours je vais chercher un copain, un ami, quelqu'un qui va venir, qui va m'aider, qui va me soutenir, qui va être à mes côtés. Parce que moi, je finirai avec ça. Tu sais, la pire chose que l'ennemi essaye de faire avec nous, c'est nous isoler pour nous frapper et pour nous tuer. Ça t'est arrivé une fois? À moi, oui. Ça m'est arrivé. Et c'était très dur pour moi. Et moi, j'ai commencé tout seul, sans personne à côté pour m'aider à prier, pour m'encourager. C'est pour ça que c'est compliqué les temps après le Covid. Parce qu'il y a des gens qui sont restés à la maison, qui sont restés à écouter un message seulement à la maison. C'est bien d'écouter un message. Bien sûr que la parole est produit des fruits, on a dit. Mais c'est mieux d'être là, avec vous. C'est mieux partager ensemble. C'est mieux glorifier le Seigneur tous ensemble. Parce que la parole, il dit en Ecclésiastes, vous êtes tous en couple. S'il y a un qui va tomber, il y a l'autre qui va l'aider à relever. S'il y a un qui a froid, ce n'est pas le cas de ma femme, c'est le mien des fois. Il y a l'autre qui vient et qui va les donner de la chaleur. S'il y a un qui voudrait te tuer, après tous les deux, il faut se mettre avec les épaules et pouvoir voir venir l'action de l'ennemi. Et c'est ce qu'il faut faire l'Église maintenant. Il faut regarder les actions de l'ennemi. Il faut les repérer. Il faut nous rétablir. Il faut nous encourager. On ne peut pas rester seul. C'est ça que l'ennemi il voudrait faire. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Regardez comme finit, verset 18. « Mais je laisserai survivre, l'a dit le Seigneur à Élie, 7000 hommes du peuple d'Israël, à savoir tous ceux qui ne seront pas mis à genoux devant les dieux de Baal. Ils n'auront pas donné de baiser à ces statues. Hein? » Élie, quand on a commencé à lire les versets, il a pensé, « Ah Seigneur, je suis tout seul, je suis uniquement un prophète d'Israël, je restais tout seul après les autres sons de Baal. » Non, ça c'est un mensonge de l'ennemi. Tu n'es pas tout seul. Tu es ton frère à côté, même si on est différent, même si on ne se comprend pas des fois. On n'est pas tout seul. Et moi, je me deviens lire avec vous. Et s'il y a des personnes qui voudraient se remettre de vous, moi je vais proclamer une parole de victoire ce matin pour ta vie, pour la gloire du Seigneur. Moi, je vais lire Isaïe 4, et ça sera une promesse pour toi. Je vais la chercher. Isaïe. Alors, je vais la trouver. Esaïe, et non, c'est pas les 4, je pense que c'est 40, et c'est 10. Alors, je vais aller parce que j'ai mon verset. Mais comme c'est une parole prophétique, l'ennemi ne voudrait pas qu'on la partage. Mais je vais la partager. Je ne prends qu'une minute. Alors, c'est Isaïe 41, 10. Ça m'est manqué les 1, 41. D'accord ? Isaïe. Je l'ai trouvé, 41, verset 10. Alors, n'aie pas peur, mon homme, car je suis avec toi. Tu n'es pas tout seul. Écoutez la promesse du Seigneur. Je suis avec toi. Tu n'aies pas peur, mon homme, car je suis avec toi. Ne lance pas ce regard inquiet, car ton Dieu, c'est moi. Le Seigneur, il te dit, moi, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance, j'ai la victoire. Tu n'es pas tout seul. Moi, je suis avec toi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Oui, honte et déshonneur à tous ceux qui t'envolent. Qu'ils soient réduits à rien. Qu'ils disparaissent tes adversaires. Tu chercheras vainement la trace de tes agresseurs. Ils seront réduits à rien de tout, ceux qui sont en guerre contre toi. Car moi, le Seigneur, écoutez ça, je suis ton Dieu. Je tiens fermement ta main droite Et je te répète, n'aie pas peur, j'arrive à ton secours. Il y a quelqu'un qui dit amen à cette parole. Ça, c'est une parole pour l'Église. Seigneur, il est avec toi. On n'est pas tout seul. Même si des fois, on voit des situations dans notre vie qui on dit, Seigneur, peut-être que je suis seul dans cette situation. Il est là avec nous. Et moi, j'aimerais bien finir pour la louange. Moi, j'adore finir pour la louange. Je pense qu'on va chanter avec Maureen un chant que ce n'était pas prévu, mais bon, elle est courageuse. Elle est très courageuse. Et on va le faire. Et j'aimerais bien qu'on arrive tous à chanter, à proclamer que le Seigneur, il est notre secours, que c'est lui qui nous garde, que c'est lui qui garde cette église et que c'est à lui qu'on voudrait le servir. Amen.